Chapitre 5. Une contrebasse transformée en baignoire. Dans la grande rue, des enseignes d'auberges grinçaient légèrement au souffle de la brise nocturne, ainsi que des harpes éoliennes de fer blanc. Dumollet et Coqueluchon donnèrent la préférence à l'auberge du Cœur Volant, tant pour sa bonne apparence que parce qu'elle était la première. Sous les coups redoublés distribués dans la porte par Dumollet et sous les appels de Coqueluchon, l'hôtesse elle-même se réveilla et daigna paraître à la fenêtre en dessous de l'enseigne.
« Pourquoi ce tapage, s'il vous plaît ? » demanda-t-elle de mauvaise humeur. « Le feu est-il à la ville ?»«
Je demande un lit, madame, pour moi et pour Coqueluchon, » répondit Dumollet.
« Mais d'où sortez-vous à cette heure-ci, quand tous les honnêtes voyageurs sont couchés ?»«
Ben je sors de soirée, madame. Moi aussi, j'aurais bien voulu me coucher à l'heure de tout le monde, mais je n'ai pas pu. J'arrive du bal de la sous-préfecture. Monsieur le sous-préfet n'a pas voulu me laisser partir plus tôt. »«
Ah, vous êtes à l'invité de monsieur le sous-préfet, » dit l'hôtesse radoucie. « Je vais vous envoyer un garçon. »
Le garçon avait le sommeil dur, sans doute, car il mit un quart d'heure à descendre. Et lorsqu'il ouvrit la porte, il trouva Dumollet endormi sur la borne, avec la tête de Coqueluchon qui ronflait debout, appuyé sur son épaule.
« Qu'est-ce que vous avez pour souper ?» dit Dumollet en se réveillant.
Le garçon se mit à rire. « À 4 heures du matin, mais croyez-vous pas que la cuisinière va se réveiller pour vous fricasser un poulet ?» « Attendez 7 heures, vous aurez du café au lait. » Dumollet soupira.
« Allons, mettons Coqueluche à l'écurie. Ayez-en bien soin et donnez-moi une chambre. »
Dumollet n'eut pas le courage de se déshabiller, il se jeta sur son lit et s'endormit aussitôt d'un vrai sommeil de plomb. Hélas, le pauvre voyageur fatigué ne put faire la grasse matinée comme il se l'était promis. Son appétit et un certain crépitement contre les vitres le réveillèrent quelques minutes après 7 heures.
« Ah, il pleut !» se dit machinalement Dumollet en regardant la fenêtre. Ben, « C'est excellent pour les radis !»
Soudain, une idée terrible lui traversa l'esprit. Et la contrebasse accrochée au réverbère, sans abri devant la sous-préfecture. Excellente pour les radis, la pluie, mais désastreuse pour les contrebasses.
Dumollet sauta sur ses jambes flageolantes et courut à la fenêtre. Horreur, il pleuvait à verse.
L'âme généreuse de notre ami n'hésita pas. Il fallait sauver la contrebasse. Cette contrebasse que l'irascible sous-préfet l'avait forcée de voler. Dumollet descendit rapidement l'escalier de l'auberge, son parapluie à la main, et se précipita dehors sans même songer à s'informer de la santé de Coqueluchon. Dans la rue, il s'orienta. Il fallait prendre la première à gauche, puis tourner à droite, puis encore à gauche. Bon, c'était difficile, heureusement, le chemin lui fut indiqué par une bande de gamins qui couraient en criant « À la sous-préfecture !» Plus on approchait, plus la rue semblait en rumeur. Dumollet s'en aperçut avec inquiétude. Des bouquets et tiquets posaient sur le bas des portes. Des bonnes femmes, la boîte à l'air à la main, semblaient se raconter des choses émouvantes et mystérieuses. Au dernier tournant de la rue, Dumollet s'arrêta en proie à une vive émotion. Le carrefour devant la sous-préfecture était plein de monde. Boutiquiers, bourgeois, laitières, gamins, agents de police, gendarmes, tous venaient en l'air sous la pluie, regardant de leurs yeux les plus stupéfaits. La contrebasse balancée par le vent à côté du réverbère. Pauvre contrebasse, était-ce bien encore une contrebasse? Un poétique instrument de musique prêt à frémir sous l'archet? N'était-ce pas plutôt une simple baignoire ruisselante et défoncée? Elle débordait, la pauvre contrebasse. À travers ses flancs gondolés et décollés, l'eau filtrait et tombait en cascade sur le pavé. Oh, c'était navrant.
Et pourquoi ne la déconchelons pas tout de suite ? Demanda Dumollet en se dissimulant sous son parapluie.
Pourquoi ? Dit un bourgeois. Eh bien, le procès verbal.
Il y a un mystère là-dessous et la police cherche à le percer. Les voisins ont entendu des bruits suspects cette nuit. Ils ont dit toutes sortes de choses. D'ailleurs, on attend monsieur le sous-préfet que l'on vient de réveiller.
Moi, dit un autre bourgeois, oh, je ne serais pas éloigné de croire qu'il y a là un crime là-dessous. Cette contrebasse là-haut, c'est pas naturel, monsieur.
Dumollet, perdant tout courage, allait fuir. Mais l'arrivée d'un nouveau personnage le cloua au sol. C'était monsieur le sous-préfet qui descendait, les yeux gros de sommeil et un parapluie à la main. Il s'en vint droit au groupe des autorités, non loin de Dumollet, qui abrita le plus possible sa tête coupable sous son parapluie. Monsieur le sous-préfet n'eut qu'un regard à jeter en l'air pour reconnaître la contrebasse. Il retira tout de suite son lorgnon et se retourna vers le maréchal des logis de la gendarmerie.
« Bon, je sais ce que c'est !» dit-il d'une voix brève.
Les gendarmes et les bourgeois regardèrent le premier fonctionnaire de la ville avec une mine qui témoignait de leur immense admiration pour sa perspicacité.
« Je connais l'individu qui a fait cela, » reprit le sous-préfet, « et je vais vous donner son signalement. »
Dumollet frémit. Le sous-préfet parlait maintenant à voix basse et le gendarme prenait des notes.
« Les allures extrêmement suspectes de cet individu m'avaient donné des soupçons cette nuit, » reprit le sous-préfet. « Je regrette maintenant de ne pas l'avoir fait arrêter. » D'abord, cet homme n'était pas ce qu'il disait être, pas musicien pour deux sous. Quel était son but en s'introduisant à la sous-préfecture? Je ne puis le deviner tout à fait, mais je penche à croire qu'il avait des intentions coupables. Ce doit être l'ennemi du gouvernement. Mais n'effrayons pas les populations, restez calme, maréchal des logis, éveillons. Malheureusement, je ne peux pas signaler le fait à Paris, mystérieux. Le télégramme ne marche pas. Interrompu par le brouillard. Bon, décrochez la contrebasse, consignez-la au greffe et revenez chercher mes instructions.
Dumollet n'eut qu'une pensée, la fuite. Fermant presque son parapluie sur sa tête, il se dégagea doucement de la foule et prit sa course vers le cœur volant.
Eh bien, lui dit l'hôtesse, vous venez de la sous-préfecture. « Oui, on dit qu'un musicien a été assassiné en sortant du bal de monsieur le sous-préfet, et que pour se débarrasser de sa contrebasse, les assassins l'ont accroché au réverbère. Oh, quelle terrible affaire !»«
Oui, c'est horrible, » balbutia Dumollet.
« Si monsieur veut déjeuner, » dit l'hôtesse.
Dumollet, pour ne pas éveiller les soupçons, consentit à déjeuner, bien qu'il n'eût plus faim du tout, puis il paya sa dépense et s'en fut scellé lui-même coqueluchon, qui ne soupçonnait rien.
« Monsieur s'en va déjà ?»
dit le garçon quand Dumollet passa sous la porte en tirant coqueluchon par la bride.
« Oui, je vais à Paris, » répondit Dumollet, comprenant la nécessité de dérouter la maréchaussée que le sous-préfet allait lancer sur sa piste.
Dumollet, forcé d'avoir de l'astuce, ce qui n'était pas dans ses habitudes, fit de son mieux. Il prit ostensiblement la route de Paris et, une fois dans les champs, fit le tour de la ville pour retrouver la route de Bretagne qu'il avait un peu perdue la veille. Coqueluchon était mélancolique. Depuis ce réveil, il n'avait pas daigné braire une seule fois. Les oreilles basses, la tête penchée vers la poussière du chemin, il trottait péniblement. Dumollet n'osait rompre le silence pour ne pas troubler l'amère tristesse de son compagnon.
C'est le remords, pensait-il, le remords de sa coupable conduite envers la noce Cloquemère, le chagrin de m'avoir causé tant d'émotions depuis hier.
Non, ce n'était pas le remords, c'était tout simplement le mal de tête. Coqueluchon subissait les étreintes de cette migraine vengeresse des lendemains d'orgie. Migraine, courbature, affaissement général, mauvaise humeur, la série complète, enfin, châtiment de sa mauvaise conduite. Le pauvre Dumollet aussi, victime de coqueluchon, ressentait de violents élancements dans la région crânienne, mais du moins son âme était pure. Coqueluchon et la fatalité avaient tout fait.
Vers midi, après une marche coupée de nombreux repas dans les herbages, sur les talus de la route, les deux voyageurs s'arrêtèrent dans un village pour s'offrir un repas substantiel. Dumoulin consacra 2 heures à cet important travail et se remit en route ensuite par un beau soleil. La pluie du matin, cette pluie fatale qui avait tant fait de mal à la contrebasse, n'avait pour ainsi dire duré que juste le temps nécessaire pour causer des désagréments à Dumoulin. Après une accalmie pendant le repas, la migraine des deux voyageurs était revenue plus féroce que jamais. Coqueluchon soupirait à toute minute et Dumoulin avait de la peine à se tenir éveillé. Et avec cela, la mauvaise humeur de Coqueluchon semblait devenir du mauvais caractère. Il lui prenait des fantaisies que Dumoulin était obligé de supporter. Par moments, malgré les objurgations de son cavalier, il s'élançait dans les champs à droite de la route, galopait dans les terres, au risque de conflit avec des gardes champêtres, et attrapait au passage une touffe de verdure, une carotte ou simplement quelques fleurettes des prés. La soif le tourmentait. À un certain moment, son nez en quête de rafraîchissement se releva pour humer l'air. Il respira bruyamment plusieurs fois, puis relevant les oreilles, il poussa un hi-haut de triomphe, et faisant un brusque écart, il sauta dans un champ à droite de la route au beau milieu d'un troupeau d'oies gardé par une petite fille. En sautant le fossé, une sangle se cassa et la selle tournant tout à coup, Dumoulin faillit passer sous le ventre de sa monture. Par bonheur, il s'était énergiquement accroché à la maigre crinière de Coqueluchon et il réussit à se maintenir malgré le galop insensé que l'âne avait pris à travers les terres. « Mais où allons-nous? Où allons-nous ?» se demandait pendant la course Dumoulin, qui ne pouvait relever la tête et se laisser aller à l'aventure. Coqueluchon s'arrêta tout à coup, aussi brusquement qu'il était parti. Dumoulin cessa de se cramponner et releva la tête. Mais au même instant, Coqueluchon, baissant la sienne et relevant le train de derrière, se débarrassa de son cavalier avec une désinvolture qui rappelait les exploits de sa jeunesse à Montmorency. Dumoulin opéra une véritable cabriole et la tête la première tomba dans la gentille petite rivière que Coqueluchon avait senti de loin. Quel plongeon ! Les éclaboussures jaillirent jusqu'à plus de 10 mètres. Coqueluchon, sans s'inquiéter de son cavalier qui se débattait dans les roseaux, buvait à longs traits avec un air de contentement parfait. La rivière n'était pas très profonde, mais Dumoulin, tombé la tête en avant, avait aux 3/4 enfoncé cette importante partie de son individu dans la vase molle et poussait des cris inarticulés en essayant de se dégager. L'insouciante Coqueluchon, très joyeux, s'était mise à boire et, par mauvaise humeur, il avait gardé le silence depuis le matin. Il le rattrapait de façon à fatiguer sur les échos. Ces éclats de musique, par bonheur, attirèrent l'attention d'un homme qui pêchait non loin de là sous les saules. Apercevant quelque chose qui remuait au milieu de la rivière, il accourut, et tendant à Dumoulin un bras secourable, il le ramena sur la rive, trempé, grelottant, dégoûtant, avec la tête coiffée d'herbes en quantité suffisante pour confectionner un petit plat d'épinards et une écrevisse dans sa poche. C'était trop d'émotion. Naturellement, Dumoulin s'évanouit entre les bras de son sauveur et ne revint à lui qu'un quart d'heure après, sous une effroyable tripotée de coups de poing que 2 hommes lui administraient. Horreur ! Oh, il se crut tombé entre les mains de ses ennemis de la noce, de Coquebert, le sous-préfet, Cordiflet de Saint-Amarante. Rappelant à lui toute son énergie, il se défendit de son mieux contre ses assaillants et leur rendit le plus de coups de poing possible. Mais hélas, il était déshabillé et couché dans un lit qu'il ne connaissait pas. Que pouvait-il contre 2 vigoureux vaillards de tout habillés? « Je me rends, gémit-il enfin. Faites de moi ce que vous voudrez, mais ne tapez plus !»
Mais au contraire, dit un des hommes, il faut taper et défendez-vous, ça vous fera du bien. Et les bourrades recommencèrent, plus énergiques que jamais. Mais qu'est-ce que je vous ai fait? Cria Dumollet. Ben, le docteur nous a dit de frictionner, nous frictionnons, reprit l'homme, entre deux énormes tapes. Là, c'est très bien, dit un troisième personnage entrant dans la chambre. La circulation est rétablie, je réponds de lui maintenant. Dumollet soupira de contentement. Très bien, dit le personnage qui était apparemment le docteur. Le pouls est mauvais, très bien. Bon, l'œil est terne, la tête est lourde. Montrez la langue, bon, pas très bonne. Estomac délabré, vous avez l'air épuisé par des excès. Je vois ça sur votre figure. Des excès, des excès, des excès. Eh bien, voici ce que j'ordonne, tranquillité absolue. Diète sévère ou je ne réponds de rien. Mais où suis-je? À l'auberge du Cheval Rouge. Bonne auberge, vous avez eu de la chance de tomber à l'eau si près d'elle. Bonne table, cap supérieur. Mais pas pour vous, car faites bien attention, mon ami. Plus d'excès, vous êtes perdu. D'ailleurs, vous n'aurez ni un bouillon ni un verre de vin sans ma permission. Mais quelle maladie ai-je donc? Ça ne vous regarde pas. Sur ce mot, le docteur se retira majestueusement, laissant Dumollet très effrayé. Chapitre 6. Rencontre épouvantable du grand serpent de Seine-et-Oise et le combat qui s'ensuivit. Et l'infortuné Dumollet resta 3 jours au lit sans bouger et sans manger. Sans bouger, ce n'était rien, c'était facile. Cela le reposait délicieusement de ses 2 journées de voyage si horriblement mouvementées. Mais sans manger était plus dur. Car en dépit des prévisions du docteur, l'appétit lui était venu comme à l'ordinaire, le soir de son accident, et ne l'avait pas quitté depuis. Cet appétit se trouvait surexcité du matin au soir par l'odeur agréable et savoureuse qui montait toute la journée des cuisines de l'hôtel du Cheval Rouge, apportant avec elle des visions de gigots, de canards embrochés, tournant devant les flambées de la grande cheminée, de poulets rôtissant sur les fourneaux, de soupes délectables bouillant à grand fracas dans les marmites de fonte. Le pauvre Dumollet maigrissait à vue d'œil, et la grosse servante qui lui apportait de l'eau panée ne s'aventurait plus qu'avec inquiétude dans sa chambre, par crainte d'être dévoré. 2 fois par jour, le passage des diligences remplissait l'auberge de tapage et de mouvement. On relayait au Cheval Rouge. Les senteurs culinaires montaient de plus belle à ces heures-là, et Dumollet, plus malheureux que jamais, croyait entendre le bruit des mâchoires et des fourchettes fonctionnant devant la nappe de la grande table d'hôte. À chaque départ, quand les diligences démarraient au milieu d'un tintamarre de coups de fouet, de cris, de rires, de trompettes, quelquefois de cors de chasse, Dumollet pouvait entendre le refrain maintenant populaire. « Bon voyage, monsieur Dumollet, à Saint-Malo débarquer son naufrage, etc. » Et l'amertume entrait de plus en plus dans son âme, et il se hasardait à quelques petites critiques des traits d'Estelle, sa fiancée, la véritable cause de son malheur, dont il considérait de temps en temps la miniature pour se désennuyer. Par bonheur, la grosse bonne se laissa enfin attendrir et consentit à apporter du bouillon en cachette à son malade. Sans ce bouillon, Dumollet se fut peut-être laissé aller à l'anthropophagie. Le 4e jour, le docteur se montra satisfait. « Encore 8 jours de diète, dit-il, et vous êtes sur pied, frais comme un jeune homme. » Dumollet frémit. Ramassant tout son courage, il se leva dès que le docteur fut parti, fit seller les coqueluchons, paya sa pension, et malgré les efforts de l'aubergiste pour conserver ce voyageur qui payait et qui ne consommait pas, mit Coqueluchon au grand trot pour s'éloigner au plus vite de l'auberge du Cheval Rouge. En passant dans un village, mettant tout à fait de côté les prescriptions du docteur, Il acheta un jambon, du pain, une bouteille de vin, et emporta le tout au fond d'un bois, pour le dévorer loin des affameurs autorisés par la faculté. Journée délicieuse. Coqueluchon, guéri de sa migraine, avait retrouvé sa bonne humeur d'autrefois. Il était charmant, obéissant, tranquille, ainsi qu'il s'y est à un âne de bonne compagnie. Dumollet se sentait presque joyeux. On fit un repas excellent sur l'herbe tendre, dans une clairière égayée par une grande flambée de chaud-soleil, et le jambon, fortement entamé, on s'offrit une sieste de 3 heures. Dumollet rêva que son voyage était terminé, qu'il était arrivé à Saint-Malo, et que Coqueluchon et lui tombaient aux genoux d'Estelle. Pauvre Dumollet! Oh, il n'avait pas épuisé toutes les rigueurs du sort. Ses malheurs n'étaient pas terminés. Quand il remonta sur Coqueluchon pour continuer son voyage, il était déjà 5 heures. Et pour arriver à la prochaine étape, il fallait arpenter 3 petites lieues de pays. Coqueluchon trottait ferme pour faire oublier, par sa bonne volonté, ses peccadilles un peu fortes du début du voyage. Le soleil se couchait lorsque les deux voyageurs aperçurent au loin les toits d'une petite ville. Dumollet les indiqua du bout de son parapluie à Coqueluchon, qui se mit à braire de joie et précipita son allure. Tout à coup, à 1/4 lieue du pays, au sortir d'un petit bois coupé par un sentier de traverse, la fatalité acharnée contre Dumollet et sa monture les jeta dans une nouvelle aventure. Vraiment, c'était à croire qu'elle possédait des actions dans les diligences Lafitte et Caillard, cette fatalité si désagréable. Le soleil se couchait, nous l'avons dit. De grands rayons jaunes d'un éclat éblouissant arrivaient en plein dans la figure du brave Baudet, qui fermait les yeux de temps en temps et trottinait gaillardement, sans défiance aucune. Dumollet songeait déjà au menu du souper, lorsque tout à coup, sur la lisière du petit bois, une apparition horrible cloua le malheureux Coqueluchon sur ses 4 jambes et lui fit dresser tous les crânes de terreur. Sur l'herbe verte, un immense serpent rouge et violet allongeait ses anneaux, non pas une petite couleuvre ou même une vipère, comme à la rigueur on en peut rencontrer sous nos climats, mais un véritable monstre de pays tropicaux. Un effroyable serpent, peut-être un sonnette, qui ne devait avoir qu'à ouvrir la bouche pour engloutir monture et cavalier. Il dormait en travers du sentier, l'air à la fois nonchalant et terrible, l'œil clos, la bouche ouverte, avec une très longue langue rouge sortant de l'entonnoir à demi ouvert, qui fendait d'un rictus formidable sa hideuse tête plate. Le serpent, oh, Dumollet n'eut besoin que d'un coup d'œil pour le reconnaître. Il l'avait vu dans l'histoire des naufragés. Il était tout à fait de l'espèce du monstre qui, jadis, avait dévoré avec leurs habits, leurs chapeaux et leurs sabres 72 marins anglais jetés par un naufrage sur les côtes inhospitalières de l'Amérique du Sud. Mais c'était le premier qui paraissait en Seine-et-Oise. Département jusque-là tranquille, fertile seulement en lièvres, lapins, perdrix, grises et cailles. Mais comment était-il venu jusque-là? Et comment l'autorité n'avait-elle pas pris des mesures pour préserver de ses atteintes les paisibles voyageurs? Toutes ces choses et une foule d'autres traversèrent en 1 minute l'esprit de Dumollet. Comment faire pour éviter le sort des 72 matelots anglais? Comment échapper au monstre? Heureusement, il dormait. Dumollet, avec une ombre d'espoir, tira doucement sur la bride de Coqueluchon pour le faire reculer sans bruit. Mais ô catastrophe ! Coqueluchon, au comble de l'épouvante et fasciné par le reptile, se mit à braire à pleine gorge sans bouger de place. Tout était perdu. C'était fini. Le serpent allait se réveiller et s'allonger. Mollet voulut au moins mourir en brave. Fouillant dans son porte-manteau, il tira son pistolet et, visant le monstre à la tête, fit feu rapidement.
Le chien s'abattit et fit jaillir une étincelle, mais le coup ne partit pas. Dumollet, dans son trouble, oubliait qu'il n'avait pas pris de poudre de peur d'accident. Le seul résultat du coup du pistolet fut de réveiller le courage de Coqueluchon. Le brave bandit, montant un héroïsme que son ami ne lui connaissait pas, tourna vaillamment le dos au monstre et se mit à lui détacher une série de rouades pendant que Dumollet, s'armant de son parapluie, s'escrimait de son mieux. Spectacle sublime! Coqueluchon purge en Seine-et-Oise des monstres tapis sous la ramure des forêts. Le serpent, surpris dans son sommeil, n'avait sans doute pas tous les moyens, ou bien il digérait trop lourdement une proie, car sous les coups, ses anneaux ne se déroulaient dans l'herbe qu'avec une certaine mollesse. L'espoir renaissait dans le cœur de Dumollet, d'autant plus que l'on venait à son secours, car des cris se faisaient entendre à peu de distance. Une dernière ruade lança notre voyageur en plein sur le monstre. Dumollet s'attendit à sentir les crocs du reptile s'implanter avec leur mortel venin dans ses chairs. Il ferma les yeux et frappa avec une telle force que tout à coup son parapluie s'enfonça jusqu'aux manches dans le corps de l'ennemi. Un craquement se fit entendre et le serpent creva dans toute sa longueur. Dumollet était victorieux. Le terrible reptile, qui jadis avait dévoré 72 marins anglais sans broncher, avait succombé sous ses coups. Il n'y avait plus sur l'herbe qu'une peau flasque, visqueuse et racornie, que Coqueluchon, remis de sa frayeur, flairait en reniflant avec dédain. Et Coqueluchon, modeste comme tous les héros, baissa la tête pour tondre un peu, comme si rien ne s'était passé, l'herbe du champ de bataille. Chapitre 7. Dumollet contracte un engagement dans la célèbre troupe Turpinski. Après cette chaude alarme, Dumollet s'essuyait le front et respirait avec délices, en se demandant quelle flatteuse récompense le gouvernement allait lui offrir, lorsque tout à coup, il se vit entouré par une bande d'individus extrêmement bizarres dans lesquels il reconnut du premier coup d'œil de simples saltimbanques. Deux Hercules, l'un très gros et très court, l'autre très maigre et immensément long, revêtus par-dessus leur maillot de houppelande fourré des rapiécés, le saisirent chacun par un bras, tandis qu'une colombine énorme et soufflante le tenait solidement au collet. Un jocrisse et un homme vêtu d'un uniforme élimé de lancier polonais, avec un énorme chapska à plumes sur la tête et un trombone sous le bras, attrapèrent Coqueluchon par la bride et maîtrisèrent ses velléités de résistance, pendant que 5 ou 6 chiens savants, habillés en général anglais, en marquise, en danseuse, en mirliflore, tous sautant sur leurs pattes de derrière et embarrassés dans les basques de leurs habits, dans leurs épées ou dans leurs jupes, aboyaient avec fureur autour du groupe. « Mais qu'est-ce que vous me voulez ?» demanda Dumollet, blêmissant devant cette nouvelle aventure. « Scélérat, monstre !» rugit la grosse colombine. « Vous nous avez ruinés ! Vous avez détruit notre serpent, un superbe serpent qui ne vous faisait rien !» « Oui !» crièrent les Hercules d'une voix caverneuse, « Brigand !»« Brigand, scélérat !» cria le Golcris d'une voix aiguë, et les chiens savants redoublèrent de sauts et d'aboiements. Dumollet comprit. Le monstrueux reptile qu'il venait d'oxyre appartenait à ces saltimbanques et s'était sans doute échappé des cages de leur ménagerie. « Mais je l'ai tué en me défendant !» cria-t-il en sautant sur ses jambes pour éviter les dents des chiens savants. « Il n'y a pas de ma faute. Quand on a des bêtes féroces, on les laisse pas se sauver de leur cage. »« Qu'est-ce que vous dites ?» fit la colombine sans lâcher le col de Dumollet. « Mais je dis que c'est votre faute et que je pourrais déposer une plainte contre vous. Votre serpent s'est sauvé de sa cage pour votre imprudence, sans doute, et il s'est jeté sur moi.
voyageur paisible, se jeter sur vous, notre serpent ?»«
Oui, » dit effrontément Dumollet.
« Oui, il était caché là, dans les herbes, et tout à coup, il s'était lancé sur moi, avec un horrible sifflement. Devais-je me laisser dévorer ? Je me suis défendu comme j'ai pu, et je l'ai tué. »«
Il s'est jeté sur vous ?» clama la grosse colombine. « Quel effronterie, oh !»«
Il s'est jeté sur vous, grognèrent les deux Hercules.
« Tenez-vous, vous autres, c'est moi que ça regarde, » dit la colombine. « Comment se serait-il jeté sur vous, scélérat, puisque... »«
Oui, avec la gueule ouverte et les sifflements, et un dard, » répéta Dumollet.
Le scélérat effronté, comment pouvez-vous soutenir que mon serpent vous attaquait, puisque c'est un serpent en baudruche ?»
Dumollet pâlit.
« Oh, baudruche ?» balbutia-t-il.
Oui, en baudruche, tenez, regardez ce qu'il en reste.
Le jocrisse, la figure piteuse, ramassa les morceaux de la victime de Dumollet et les lui mit sous le nez.
Vous voyez, reprit Colombine, c'est de la baudruche et supérieurement peinte pour imiter la peau d'un vrai serpent. On n'en fait pas de pareil. Et nous venions de gonfler notre serpent et de le repeindre pour la représentation de demain. Nous l'avions mis sécher dans l'herbe pendant que nous étions tout entiers à notre répétition derrière nos voitures là-bas. Et voilà que vous nous le détruisez.
Les deux Hercules secouèrent fortement Dumollet et les chiens aboyèrent avec fureur.
Oh, c'est une méprise, gémit Dumollet. Oh, j'ai cru que c'était un vrai serpent. Je reconnais mes torts et je suis prêt à payer les dégâts.
« Payer le dégât !» dit dédaigneusement Colombine. « Est-ce qu'on peut payer un serpent aussi réussi, aussi terrible ? Pouvez-vous payer la science de celui qui l'a fourni le modèle, qui a donné les indications, le talent de celui qui l'a peint, les voyages qu'il a fallu faire dans les pays chauds pour avoir des pareils ?»«
Je pensais qu'une indemnité... »« Une indemnité, mais nous sommes ruinés !» Notre représentation de demain à Dreux manquait naturellement, tout l'offrait perdu. Ce magnifique serpent était le principal attrait de nos représentations. Il mettait les villes que nous traversions en érudition. Tout le monde venait voir dans notre tente mon mari, le célèbre dompteur Turpinski, dompter ce héros fertile, reptile, et le forcer à s'enrouler en sifflant autour de son cou. Tout le monde frémissait alors. Il y avait toujours au moins une dame ou deux qui s'évanouissaient de terreur.
Le gros Hercule fit un signe de tête en souriant avec vanité.
« Et c'est fini. »« Mais indemnité, » répéta timidement Dumollet. « Mais nous sommes ruinés. Notre nègre Carcassou nous a quittés il y a 3 jours pour aller avec la concurrence à un cirque de 4 sous. » La perte de notre serpent nous achève. »
Les deux Hercules secouèrent plus vigoureusement Dumollet.
Et je ferai tout ce qu'il faudra, gémit l'infortuné.
Écoutez, vous avez un bel âne.
Vous donnez Coqueluchon, à jamais. Non, j'offre 40 francs.
Vous plaisantez, le serpent valait 20 fois plus. Nous prendrons les 40 francs.
Votre âne est très joli, mais je ne veux pas le donner.
Mais vous ne nous le donnerez pas, vous nous le prêterez.
Là, le temps de raccommoder notre serpent, 2 jours seulement. Sans quoi, vous comprenez que sans nègre et sans serpent, nous ne pouvons plus rien faire. Tout est perdu par votre faute. Mais je n'ai pas tué votre nègre, au moins, si j'ai abîmé votre serpent.
Mais la perte de notre serpent nous achève. Le nègre, à la rigueur, nous nous en passions, mais le serpent.
Donc, 40 francs et votre âne pour 2 jours.
Je ne veux pas m'en séparer.
Eh bien, restez avec lui et venez avec nous.
Par exemple, dit Dumollet. Et ma dignité.
Colombine et les deux Hercules reprirent le collet de Dumollet.
Bon, je consens, dit Dumollet.
« Allez, venez en amis, nous sommes de bons enfants. reprit-il, et j'ai encore une idée. Écoutez-vous parler de votre dignité. J'ai trouvé un moyen de la mettre à couvert. Vous remplacerez le nègre Carcassou. » Dumollet et le gros Hercule regardèrent Colombine, le premier avec effarement et le second avec admiration.
« Mais je vous en prie, reprit Colombine, il n'y a que ce moyen de sauver notre représentation de demain à Dreux. Carcassou et le serpent sont sur les affiches placardées depuis 8 jours en ville. Si tous les deux manquent, on nous jettera des pommes cuites. Consentez à prendre le rôle de nègre et tout ira bien tout de même. »
Déjà, le jockey s'entraînait vers les voitures Coqueluchon, suivi par les chiens savants.
« Ben allons, dit Dumollet. Je consens à vous suivre, mais nous verrons pour le nègre.
Mais vous n'aurez qu'à vous tenir dans une cage et à grincer des dents sans rien dire. C'est pas difficile, il n'y a pas besoin d'avoir la vocation.
Mais je ne suis pas nègre du tout. Mais qu'est-ce que ça fait? En une demi-heure demain matin, on vous transformera en nègre. Et vous êtes justement de la taille de Carcassou. J'ai un de ces costumes de sauvage qui vous ira très bien. »
Dumollet baissa la tête tout à fait accablée et sous les coups de la destinée. Décidément, le ciel lui en voulait, et la fatalité s'acharnait à l'écraser sous des coups redoublés. Il se déclarait vaincu, et désormais il ne résisterait plus. Et pris sous le bras d'un côté par l'Hercule gras et de l'autre par l'Hercule maigre, il suivit Coqueluchon vers le campement des saltimbanques. Chapitre 8. Souper à la Belle Étoile et installation en 3 morceaux dans l'armoire des Turpinski. Dans un pli du terrain, le long du bois, 2 longues voitures étaient rangées côte à côte, 2 véritables maisons roulantes, peintes en vert tendre, avec escalier et balcon à l'avant, fenêtres à rideaux rouges et cheminées, lançant en l'air leur petite spirale de fumée. Sur le côté paissaient 4 chevaux extraordinaires, vieux, maigres, velus et comme chevelus, avec des crins jaunes tombant en longues mèches éplorées le long du nez, ce qui leur donnait de faux airs de poètes incompris ou d'étudiants allemands. Entre les 2 voitures, une jeune fille, vêtue d'un costume de danseuse de corde, déchirée, reprisée, mais encore ornée, çà et là, de quelques rangs de paillettes, mettait des assiettes sur une planche posée sur 2 caisses, tandis que, sous cette table improvisée, une chienne savante, sans souci de sa belle robe à falbala, donnait à téter à 4 gros toutous fort indifférents à la gloire artistique de leur mère.
« Friska, dit la grosse Colombine, mets encore une assiette, nous avons un artiste de plus. »
« Et un serpent de moins, grommela l'Hercule, en jetant à terre la dépouille du féroce reptile massacré par Dumollet.
La jeune danseuse, à la vue des misérables restes du serpent, la gloire de la troupe, se laissa tomber pétrifiée sur la table et faillit faire sauter toute la vaisselle.
« Oui, Friska, dit l'Hercule, notre serpent est crevé. C'est monsieur qui a... »«
Et vous l'invitez à dîner pour ça ?»
s'écria Friska en levant les bras en l'air.
Ben, « Mais nous l'engageons dans notre troupe, lui et son âne, » répondit Colombine. « Je t'expliquerai ça. Comment les trouves-tu »«
Oh, le bel âne.
Monsieur est très bien aussi. Demain, il sera superbe en nègre. »«
Ah !» fit Friska en battant des mains. « Il remplace Carcassou. Très bien, très bien. Nous aurons encore le nègre sauvage anthropophage. » « Du cap de bonne espérance !»
Dumollet salua, très intimidé.
« Allô, à table !» dit la Colombine.
« V'là la soupe, maman !»
dit un petit garçon habillé en paillasse sur le balcon d'une voiture.
« V'là les pommes de terre, maman !»
dit un autre petit garçon, également en paillasse, surgissant par une fenêtre de l'autre véhicule. Les Hercules se précipitèrent dans les voitures et reparurent, portant avec précaution l'un une grande soupière fumante et l'autre un plat de pommes de terre.
« À la fortune du pot !» dit Colombine en brandissant une louche.
Vous excuserez, monsieur, nous nous attendions pas un convive. Nous n'avons que des pommes de terre au lard. S'il n'était pas si tard, nous aurions tordu le cou à l'un de ces canards.
Dumollet regarda du côté que Colombine lui indiquait avec sa louche et aperçut, sous une voiture, serrée dans un panier à claire-voie, deux gros canards verts endormis à côté d'une tasse pleine d'eau.
À propos, les poules ont encore pondu, dit Frisca. Ça nous fait la douzaine.
Sous la seconde voiture, Dumollet vit un autre panier habité par trois poules.
Frisca, dit majestueusement Colombine en servant la soupe. Après la soupe, tu nous fabriqueras une de ces omelettes comme tu sais les faire.
Avec beaucoup de lard, dit le gros Hercule. Frisca passa la boîte qui lui servait de chaise à Dumollet et s'assit sur un tambour. Dumollet soupira. En quittant le matin l'auberge du Cheval Rouge, il ne s'entendait certes pas à souper en plein air avec des saltimbanques, peut-être peu recommandable. Heureusement, la soupe était bonne. Cela glissa un soupçon de consolation dans son cœur.
« Bon, dit Colombine en reposant sa cuillère dans son assiette vide, votre âne me plaît, monsieur. »«
Vous me l'avez déjà dit, soupira Dumollet. »
Il doit être très intelligent.
Oh, il est, madame.
Mais qu'est-ce qu'il sait faire?
Mais ce que font tous les ânes, naturellement.
Je veux dire, a-t-il des talents?
Bon, dame, non, je n'en connais pas.
Comment? Vous avez un âne intelligent et vous ne cultivez pas son intelligence et vous ne lui donnez pas quelques petits talents de société?
Oh, je n'y ai pas pensé, fit humblement Dumollet. Tous les bourgeois sont naturellement imbéciles, dit l'Hercule mastodonte de sa grosse voix.
Mais tenez, reprit Colombine, voilà Zelma, la chienne, qui nourrit ses petits sous la table. Vous ne pouvez pas vous figurer avec quelle grâce elle danse la polka. Et Cocorbeau, le gros caniche là-bas, en général anglais, il joue au domino comme un ange. Plus fort que le célèbre Munito qui fait courir tout Paris. Cocorbeau n'est qu'un caliche de province, mais il est plus fort que le caliche de Paris. Grâce à Belleçon, monsieur. Voilà, les bourgeois ne se donnent pas la peine de cultiver l'intelligence de leurs bêtes. Mais vous verrez avec nous, monsieur, comme votre âne va devenir rapidement spirituel. À propos, comment l'appelez-vous?
Coqueluchon.
Bon, eh bien, nous l'appellerons Coqueluchat et nous le transformerons en girafe.
Frisca, qui revenait avec l'omelette fumante dans la poêle, approuva fortement.
Oh, bonne idée, bonne idée. En girafe?
S'exclama Dumollet.
Oui, monsieur, comme celle qui vient d'arriver à Paris et que j'ai été voir au jardin des plantes.
Vous lui allongerez le cou?
« Naturellement, mais sans lui faire de mal. Nous avons tout ce qu'il faut pour cela. Je vous avouerai que le mois dernier, nous avons essayé de faire une girafe avec un de nos chevaux, mais ça n'a pas réussi. Je suis certaine que ça marchera mieux avec votre âne. Il y en a dans une caisse une tête et un cou postiche qui s'ajusteront très bien sur la tête de Coqueluchon. Ça marchera, soyez tranquille. » Alors, savourons l'omelette de Frisca et achevons de dîner rapidement. Nous avons à travailler ensuite.
Après le dîner, en un clin d'œil, les deux Hercules fabriquèrent une sorte de tente, enfermant avec des toiles l'intervalle entre les deux voitures et en jetant une bâche par-dessus. Puis on déshabilla les chiens qui s'en allèrent coucher sous les voitures. Ensuite, des caisses furent apportées et l'on jeta sur la table un tas d'oripeaux plus ou moins dorés et pailletés. Colombine, Frisca et le gros Hercule prirent l'aiguille pour réparer ça et là quelques avaries. L'Hercule maigre et le Jocris, artistes dans tout genre, tous les deux, entreprirent des travaux d'un ordre plus relevé. L'Hercule raccommoda la carcasse de la girafe un peu aplatie et lui redonna un coup de pinceau. Pendant que le Jocris calligraphiait une immense affiche. Troupe Tiopinski, la girafe Coqueluchat,
la merveille de l'Afrique du Sud, rapporté du Cap de Bonne-Espérance par... Ici, le Jocrisse s'arrêta et interrogea la Colombine, Madame Turpinski.
Mais c'est monsieur qui fait le nègre, quel nom mettrait-je sur l'affiche?
Ah, c'est vrai, dit Madame Turpinski, comment vous appelez-vous?
Moi, dit Dumollet effrayé, mettre mon nom sur l'affiche?
Dites-nous votre nom, nous le traduirons en nègre. Votre prédécesseur s'appelait tout simplement Nicolas, et nous l'avons baptisé Carcassou.
Je m'appelle Narcisse, répondit Dumollet, désireux de garder l'incognito.
Mauvais pour un nègre. Nous vous appellerons Mokodinko, c'est beaucoup plus sauvage.
Allons-y, dit le Jocrisse, par Mokodinko, nègre sauvage et anthropophage qui se nourrit de lapins vivants.
Et à propos, dit Madame Turpinski en s'interrompant entre deux reprises, et les appointements? Nous n'avons pas réglé la question des appointements de M. Narcisse.
Oh, c'est vrai, rugit le gros Hercule en tirant l'aiguille.
Oh, je n'en demande pas, fit Dumollet. Je reste avec vous pour quelques jours en amateur.
Ah, nous ne pouvons pas accepter ça. Réglons tout de suite.
Mais commencez-vous d'une cinquantaine de francs par mois.
Oh, mais c'est trop, madame.
Ah non, monsieur, ce n'est que juste. Donc voilà qui est entendu. Vous restez avec nous, ainsi que Coqueluchon, et vous nous donnez 50 francs par mois.
Ah, comment, c'est moi qui vous les donne? S'écria Dumollet.
Mais sans doute comme indemnité. Vous avez détruit notre magnifique serpent à sonnette, notre instrument de travail, il est juste que vous nous serviez des dommages-intérêts. Oh, je ne vous demande même rien pour les leçons d'art dramatique que nous allons vous donner et qui feront de vous un homme moins bête en société que le reste des bourgeois.
Lorsque, dans le silence de la nuit, on entendit au loin le clocher de Dreux sonner le couvre-feu, Madame Turpinski emballa soigneusement son ouvrage.
« Allons, mes enfants, voilà l'heure de dormir, » dit-elle. « Demain, au petit jour, tout le monde debout pour nos derniers préparatifs et à 9 heures, entrée solennelle dans la ville. « Voyons, où allons-nous ranger, monsieur Narcisse ?»«
Ben, dans l'ancien lit de Carcassou, naturellement, » dit le gros Turpinski. J'ai logé ailleurs la chienne Zelma et ses 4 petits. Ils ont réclamé, mais j'aurais expliqué que c'était pour un artiste à 2 pattes.
Dumollet n'avait jamais vu l'intérieur d'une de ces maisons roulantes avec lesquelles les saltimbanques, plus intelligents que le reste des citoyens, courent le monde si communément, au gré de leurs caprices, à travers monts et vallées, sans voisins ennuyeux ni entraves d'aucune sorte. Il ne se doutait aucunement de la quantité de meubles et d'objets quelconques et biscornus contenus dans ces logis ambulants, ni du nombre d'habitants qui trouvaient là leurs cases et leurs lits. M. Turpinski, son patron, l'introduisit dans la plus petite des voitures, divisée en 3 compartiments, un magasin qui pouvait servir en même temps de salon et de chambre à coucher, une armoire avec une tablette en haut servant également de chambre à coucher et une cuisine. L'Hercule maigre et le Jocrisse couchaient dans le salon. Leur lit était une sorte de table. Jocrisse couchait dessus et l'Hercule dessous, à cause de sa taille qui ne lui avait pas permis de s'accommoder de l'étage supérieur. Dans la cuisine couchaient 2 chiens. Un lapin savant, un perroquet, le musicien vêtu en ancien polonais. Dumollet dut se contenter de la tablette de l'armoire, l'ancien lit du nègre, confortablement garni d'un matelas épais de 2 doigts. Le bon Turpinski, plein de sollicitude, lui enseigna la manière de se coucher en 3 morceaux, de façon à ne pas se trouver gêné par les dimensions un peu restreinte du meuble, et il ne quitta son nouvel artiste que lorsque celui-ci lui eut assuré qu'il était admirablement logé.